Mado de Nantes. L'Union européenne est très embarrassée parce qu'il y a eu un sondage comme quoi les citoyens européens pensent que la première source de déstabilisation actuellement du Moyen-Orient, c'est Israël, avant l'Iran. Alors, la présidente de l'Union européenne est très embarrassée parce que depuis des mois, voire des années, elle dit le contraire de ce que pensent les citoyens et que pour des hommes politiques, c'est embêtant d'être en décalage avec sa population. Non, non, c'était une blague. L'Union européenne est très embarrassée vis-à-vis d'Israël, parce que les citoyens ne disent pas ce qu'on attend qu'ils disent. L'Union européenne va donc continuer de dire le contraire de ce que pensent ses citoyens. Ça s'appelle comment déjà ça? Quand les hommes politiques ne disent pas ce que pensent les citoyens, une démocratie, non? En tout cas, Israël est tranquille pour un moment. Les citoyens pensent et les hommes politiques se taisent. Allez, bonne continuation à tous.
C'est un petit mot sur les conneries qu'on entend à la télé tout le temps. Cette nuit, à 0h40 sur Euronews, grand titre, 59% des Européens sont antisémites. Et le développement, c'était 59% des Européens ne comprennent pas la politique d'Israël. Je trouve que quand même, des fois, les journalistes aussi exagèrent. Salut!
Oui, bonjour, Philippe de Toulouse. Mon numéro de téléphone, 06 85 54 81 08. Oui, voilà, salut Daniel, je t'appelle parce que j'écoute ton émission tous les soirs et j'ai entendu que tu allais parler des travailleurs agricoles, entre guillemets, du sud de la France. Alors, je t'appelle pour te dire simplement que ça fait plusieurs années que pendant mes vacances, je ramasse des pommes dans la région toulousaine. Alors, connaissant ton émission, puisque je te l'ai dit, je l'écoute tous les jours, je veux simplement apporter mon témoignage et te dire que malgré tout ce chômage, entre guillemets, personne ne veut faire ce boulot. J'imagine déjà les réactions que cette phrase va pouvoir créer auprès de tes auditeurs. Je suis absolument pas facho, loin s'en faut, et mes origines prolétaires, je les ai toujours conservées en moi, comme un terreau pour ma vie. J'ai 45 balais, et pour arrondir mes fins de mois qui ne sont pas toujours très brillantes, je ne pars ni à la montagne ni à la mer, mais je bosse 10 heures par jour en plein canard. J'aimerais que tu vois les conditions qui sont offertes aux ces fameux travailleurs agricoles avant que de les critiquer les gens qui les emploient. Ces conditions ne sont pas l'hôtel 3 étoiles du coin, mais restent de toute façon très décentes. Je vis chaque année un mois avec ces travailleurs immigrés d'une saison, noirs, arabes, juifs ou américains du sud, et oui, et même chinois. Eux, ils se posent pas de questions et ne rechignent pas sur le fait que la température de l'eau de la douche est un peu trop froide ou un peu trop chaude, et restent contents qu'on puisse leur offrir une chance de gagner un peu d'argent. Voilà, un peu d'humilité peut-être, un peu plus de prise de conscience de ce que peut être la vie. Moi, mes gamins, ils ont 15 ans et 17 ans et ils viennent avec moi ramasser les pommes simplement pour voir que les choses sont pas toujours aussi faciles que ce que l'on croit et qu'en se bougeant le cul, des fois, on arrive un petit peu mieux à réussir qu'en attendant tout simplement que les choses arrivent. Je te le redis, je suis absolument pas facho, j'apprécie énormément ce que tu fais, je te tiens mon chapeau parce qu'il y a peu de gens qui sont capables de faire ce que tu fais. Bravo, bravo France Inter et bravo à toi. Ciao Daniel, à bientôt, au revoir.
Ouais, salut Daniel, c'est Benoît, chauffeur routier. C'est pour agir par rapport à ce que je viens d'entendre là, comme quoi il faudrait 10 000 immigrés par an en plus en France, alors qu'il y a 3 millions de chômeurs. Donc il faudrait m'expliquer comment certains arrivent à faire leurs calculs, quoi. Donc voilà, salut.
Bah effectivement, ça va pas être facile à expliquer qu'on arrive à 3 millions de chômeurs et que selon le Conseil économique et social, il nous faut des étrangers, il nous faut des migrants pour certains secteurs face à certaines pénuries et puis au vieillissement de la population. C'est pas un problème seulement français, ça s'étend à toute l'Europe. Il y aurait comme une contradiction, et alors ça voudrait dire qu'il faudrait peut-être s'intéresser à ce qui se passe de près, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. On va se rendre dans le sud de notre bel hexagone, là où les légumes fleurissent, où au soleil du midi arrive jusque sur nos tables gorgées de bonnes choses. On va voir dans quelles conditions tout cela est produit, pas forcément par des beaux et gentils Français, mais par des méchants étrangers qui viennent manger les tomates des Français. À part ça, sur le front de l'antisémitisme, plusieurs auditeurs n'ont pas loupé cette information assez étonnante, selon laquelle un sondage, je cherche mes petits papiers, un sondage organisé par l'Europe au niveau européen, l'Union européenne, indique que 59% des Européens estiment que Israël est un pays qui... Je cherchais de près... Voilà. qui est un pays dangereux en matière de sécurité internationale pour 59% de 7515 Européens interrogés. Israël crée une menace pour la paix mondiale, suivie par l'Iran, la Corée du Nord et les États-Unis. Alors, réaction des autorités israéliennes, de l'actuel gouvernement israélien, il faut que l'Union européenne cesse le lavage de cerveau, je cite, avant que l'Europe ne retombe, je cite, dans ces périodes sombres. C'est plus seulement notre président qui est antisémite, c'est pas seulement la France qui est antisémite, c'est désormais toute l'Europe. Et puis, cette information que vous avez entendue à 15h, qui mérite peut-être d'être soulignée, condamnation d'un dénommé Alexandre Attali, qui était le coordinateur d'un site israélien, amisraelhaï.org, qui était un site ultra-sioniste, et qui invitait à balancer des coups de batte de baseball dans la figure d'une liste de personnes qui avait été publiée, des personnes juives dont les noms étaient suivis d'une étoile de David, parmi lesquelles dans la liste on rencontrait des noms célèbres ou des d'anciens déportés, des rescapés des camps de la mort, qui étaient donc exposés à la brutalité voilà, de cette façon. Donc condamnation à 4 mois pour ce charmant jeune homme. Aujourd'hui donc un petit tour la façon dont sont produits certains de nos fruits et légumes. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base, si j'y suis. 01 56 40 37 37.
Je vous appelle parce que je viens d'entendre l'émission d'aujourd'hui 3 novembre et que j'ai trouvé excellente l'idée qui a été suggérée de renvoyer des chèques à Monsieur Raffarin pour lui signifier à quel point on n'a pas envie de sa réduction d'impôts au prix qu'elle coûte, c'est-à-dire de taper sur les moins heureux d'entre nous. Voilà, et je serais très très heureux si cette idée pouvait être prise et que tous on retourne nos chèques comme ça. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Et puis encore merci pour l'émission. Salut.
Bonjour Daniel Mermet. Je suis Claire, institutrice en Seine-et-Marne. Je voudrais donner des informations sur le fait que les enseignants ne baissent pas les bras et continuent à lutter pour les mêmes valeurs que celles qui ont été défendues tous les jours dans les assemblées générales de printemps, dans notre secteur entre autres. Pour preuve, nous organisons une réunion de débat sur le thème « Quel service public pour quelle solidarité ?» le tout au pluriel. Pour cette réunion, nous avons invité un économiste qui travaille avec ATTAC et avec la Fondation Copernic. Donc il y aura des témoignages de salariés de la Banque de France, des hôpitaux, de la RATP, des enseignants et bien sûr des intermittents qui connaissent le lieu, puisque la réunion se tient à la ferme du Buisson à Noisiel ce jeudi 6 novembre à 20h. Merci, on espère que vous serez nombreux. Merci, au revoir.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Thierry Scharf. Là-bas, si j'y suis, le bidonville rural.
Flight number 2, arriving from
Kyoto. C'est pratique parce qu'ils sont, là en temps voulu, puis après quand ils ont fini, quand même, ils s'en vont volontiers. Hein.
C'est un rêve pour nous, ça, venir ici.
On a un ou deux qui partent très peu, mais eh ben, c'est là qu'ils bossent plus que les autres.
Ton patron, donc il sait que t'as pas de papier.
Ouais, il sait. J'ai les cartes fausses.
T'as une fausse carte.
Aujourd'hui, on a 3 personnes à déclarer, mais t'as, il nous en faut 2 de plus. Comment on fait? Tu vas taper aux portes n'importe où? Ils sont là, ils nous ont pas. Oui, non, oui, non.
Ah, c'est sidérant là ce qu'on a en face de nous là. C'est un vrai bidonville quoi, qui est planté au milieu des serres. Ici on est à côté de Berre, là, des étangs de Berre. Bah voilà, c'est un bidonville avec des caravanes assez délabrées, des abris de fortune faits avec ce qu'on peut, des bâches en plastique, des cartons. Et c'est assez dissimulé, hein. On a roulé un moment avant de trouver ce qu'on appelle le gourbi. Mm-hmm. Et c'est vrai que finalement, c'est assez planqué. Quiconque ne passe pas par là, n'a pas d'activité agricole, on va dire, hein, ne voit pas ça.
La misère se cache toujours. Pourtant, le gourbi existe depuis plus de 20 ans maintenant, puisque déjà en 91...
20 ans ?
Plus de 20 ans. En 91, il y avait eu une intervention des forces de l'ordre déjà. Et puis, donc, ça veut dire qu'ils étaient déjà là, et déjà depuis quelques années. On va passer par là.
Ah, elles sont belles, hein, les oranges sur les marchés, les tomates, les épinards, les salades, enfin tout ça, c'est sympa, hein, d'aller faire ses courses avec son petit panier et puis tout ça. Mais dans quelles conditions tout cela est produit ? Voilà, vous avez compris, on est dans le sud de la France, on est à côté de Berre, les fameux étangs de Berre, et là, eh bien, il y a, je sais pas ce que ça veut dire exactement, gourbi, en arabe, mais en tous les cas, c'est un mot qui tient la route, celui-là, hein. On avait dit récemment dans cette émission qu'il n'y avait plus de bidonville en France, et évidemment, aussitôt, on s'est fait remonter les bretelles par des auditeurs qui nous ont dit, bon, il y en a encore, dont celui-là. Celui-là, eh bien, il est habité une grande partie de l'année par des gens qui viennent une grande partie de l'année du Maghreb ou d'ailleurs et qui sont des saisonniers et qui travaillent à la production de ces légumes et de ces fruits qui font le charme de nos tables. C'est une vieille histoire que celle des saisonniers. On va essayer de comprendre comment, dans quelles conditions ils travaillent, quel est le mécanisme, en fait, tout simplement, de criminalisation de la misère. Comment on fragilise, comment on exploite, comment on fait suer. Jadis, c'était le burnou de l'autre côté de la Méditerranée. Comment ça se passe ici? Et comment aussi les exploiteurs, les petites entreprises, elles-mêmes, se trouvent coincées par les impératifs de commercial des grandes surfaces, et comment les grandes surfaces sont évidemment assaillies par nos demandes à nous qui voulons manger des tomates toute l'année, qui voulons manger du raisin toute l'année, qui sommes habitués à une culture maintenant d'un type de consommation. Je ne dis pas que c'est nous qui sommes responsables de l'exploitation qui va être décrite au cours de cette heure, mais nous y avons une part, non pas de responsabilité, mais nous sommes liés. C'est-à-dire qu'entre ce gourbi et puis le marchand de légumes du coin de la rue, il y a un lien, et c'est ce lien que nous avons avec Thierry Scharf voulu aujourd'hui jusqu'à 18h sur Inter mettre en valeur.
Un conseil, madame, un conseil, monsieur. Mangez sain, mangez frais, mangez des tomates.
Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates, nuit et jour. Ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine A, B, C, c'est bon pour la santé. Les acrobates, les pêcheurs, les diplomates, les boxeurs, délaissent les patates pour se fouiller vers l'âtre. La tomate en salade, tomate farcie. Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates nuit et jour. À la pomme qui éclate, préférons les tomates. Les tomates, ça fait mal quand ça tombe sur le nez.
Oui, mais quand on les mange, c'est bon pour la santé.
Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates, mon amour.
Vous avez une canne, Mohamed, à côté de vous, là. Qu'est-ce qui vous est arrivé ?
C'est 1988.
En 88, oui.
Je travaillais contrat armé. Quand je finis contrat armé, je retourne mon pays.
Depuis 88, vous faites des contrats OMI, et puis à chaque fois, vous revenez au pays.
Voilà. Voilà. Quand j'ai fini la saison de travail, et je retourne mon pays.
Qu'est-ce que vous faisiez comme travail?
Et un travail, je travaillais sur la tomate,
les tomates,
les courgettes, les aubergines, les olives. Un jour, j'ai dit à mon patron, tu payes les heures supplémentaires, tu payes, parce que le contrat, il prend la charge du contrat, 2000 francs par an et 800 francs prolongation.
C'est-à-dire?
Pour avoir un contrat de 6 mois.
Il payait un intermédiaire ou directement au patron, vous payez pour avoir un contrat OMI?
Profite. Le patron.
Au patron, vous payez directement au patron pour avoir le contrat. Ouais, ça, c'est tout à fait illégal.
Sur les heures supplémentaires. Elle aimait. Quand tu payes pas le contrat, l'année prochaine, je fais pas de contrat pour vous. Reste là-bas au Maroc.
Ah oui, si vous payez pas le contrat, vous en aurez pas d'autres.
Voilà. Et il a dit, chaque année, ils prennent 2000 francs et 800 francs de prolongation de contrat de travail.
800 francs en plus, si vous prenez pour prolonger le contrat.
Voilà. Et alors, l'année dernière, le mois de décembre, 3 décembre 2002, je tombais accident de travail, je tombais sur le dos, je glissais mes pieds de la droite.
Donc là, vous avez eu un accident de travail sur le dos?
Voilà.
Vous êtes tombé de quoi?
Il est tombé sur un escabeau qui cueille les pêches.
Les olives.
Ah, les olives. Le patron, quand il a vu qu'il était en accident de travail, il l'a mis dehors.
Eh oui, parce qu'à cause d'accident de travail, il a dit tu fais l'accident de travail exprès, etc. Et il a dit on a fait plus le contrat l'année prochaine. Et reste pas chez moi, on va chercher quelqu'un et loger.
Vous avirez, vous avez dit d'aller voir ailleurs.
Je fais pas exprès, ça arrivait. Il a dit non, je reste pas chez moi. Tu sors. Qui sort pas, je m'appelle la police ou le gendarmerie, tu sors obligatoire. Là, بغيت نقول انا اللي ضيعت الصحه تاعي وضيعت في الخدمه.
Il a perdu sa santé, il a perdu son travail, il a perdu son logement, il a plus rien, maintenant il a pas de logement où habiter, il a plus de papier, il sait pas où aller, hein.
Aujourd'hui, vous êtes illégalement sur le territoire, vous avez plus de titre de séjour qui vous permet de rester, hein. Et vous, pour vous faire soigner, vous êtes obligé de rester. Vous avez des examens, là.
Voilà.
Hein? Comment vous allez faire?
Alors,
le préfet, il a donné sa décision et ils ont demandé que dans les 48 heures, il fallait qu'il reparte chez lui, reconduite à la frontière.
Et vous êtes toujours là?
Toujours, voilà.
Il a dit, moi, j'ai eu un accident ici, je peux pas me soigner au Maroc, je me soigne ici. Alors, vous dites que je peux aller mourir au Maroc. Le patron, il les prend quand ils sont en bonne santé. Mais quand ils sont plus en bonne santé, qu'ils sont malades, il a plus besoin d'eux, hein, il les prend plus.
Et donc là, vous vivez dans la peur d'être expulsé tous les jours.
C'est
pas comme quand il est en règle. Là, il est pas en règle, donc il vit dans la peur, il est triste dans sa vie, il peut pas faire ce qu'il veut. C'est pas comme quand s'il avait sa carte de séjour, bon ben ça serait autrement, mais là. Il dit, est-ce qu'il peut dire quelque chose qui est pas bien pour la justice?
Oui, bien sûr, vous pouvez.
Parce que je le dis à moi, Monsieur Sarkozy m'a fait le plaisir, il est démissionné sur l'État français. Franchement, il est mal avec les étrangers ou soit les Français.
Monsieur Sarkozy ne se comporte pas bien avec les étrangers.
Voilà. Il fait démissionner.
Faut qu'il démissionne, Sarkozy. Ouais.
Moi, j'ai pas content. J'ai fâché. Il est fâché.
Vous êtes fâché contre Sarkozy?
Il a fait n'importe quoi.
Est-ce que vous pensez que le patron qui vous employait était raciste?
Ouais, raciste.
Il est raciste, mais il est gentil, il fait le gentil, quoi. Parce qu'il n'y a pas que lui qui est en accident de travail, il y en a 9.
نعرف ان الناس معايا طاحت عليهم الشجره كاع وتهرسوا في الصحه ومازالني لحد الان عندي كاب مساكيت معطوبين واني.
Il y en a qui sont tombés qui a un arbre qui est tombé sur un, qui s'est cassé la jambe et tout, il l'a mis dehors.
Travailler en France, c'est très intéressant pour vous économiquement.
ولكن دابا حنا كي كنتخلصوا به هنا ماشي على حساب المغرب لان حنا كنتخلصوا
به دي نو مينتنون اي نيت ان فرانس دونك اون ترافاي ان فرانس اي ترافاي بور 30 فرانس
اغور
وي
مي لارجون اي ريفيان او ماروك كو ميم
اه لابد لان صيفط شي حاجه ما ياكلوا الدراري على حسابي باش يعيشوا
Ben, il dépense sa vie pour manger. Il est obligé de manger. Et le reste, il envoie à ses enfants. Ses enfants, ils sont obligés de manger aussi.
Donc, votre famille, elle vous attend là-bas?
Ma famille, ma femme, il y a trois enfants. Et...
Trois enfants.
Voilà, on vit au Maroc.
Vous voulez pas rester ici en France?
بغيت سمي هو شنو هو الحل غاليني يديروا معايا واحد الحال يعطيوني التعويض
il veut pas rester en France il repartira si on lui donne par exemple si puisqu'il peut plus travailler s'il a une pension s'il a autre chose il partira
Déjà, John Steinbeck décrivait les conditions des saisonniers en Californie il y a bien longtemps. Dans cette émission, il avait rencontré des saisonniers en Floride, les Haïtiens de Floride, les Cubains aussi de Floride. Le saisonnier, le personnage du saisonnier, les conditions faites aux saisonniers sont anciennes et se retrouvent dans beaucoup de pays dans le monde et y compris dans notre beau pays. Les saisonniers sous contrat, c'est-à-dire les saisonniers agricoles étrangers sous contrat OMI, on va savoir ce que c'est que ces types de contrats, mais qui ont un caractère tout à fait légal, nous intéresse depuis quelque temps. Tout le monde semble découvrir l'existence de ces travailleurs immigrés et les conditions assez lamentables dans lesquelles ils exercent en toute légalité leur activité. En fait, il s'agit d'un contrat de type tout à fait féodal, parce que ces travailleurs n'ont de saisonnier que le nom. Ils sont employés massivement dans les Bouches-du-Rhône depuis plus de 30 ans maintenant, et jusque-là, ils n'ont jamais fait parler d'eux. Évidemment, ils n'ont pas intérêt à la ramener, hein, c'est l'omerta. C'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls à avoir voulu faire des reportages sur leur vie, mais à chaque fois, eh bien, les gars n'y tiennent pas beaucoup. Non, faites pas parler de nous. On n'a pas envie de se faire repérer, et nous, on n'a pas non plus, voilà. Ils n'ont pas envie. Mais là, tout d'un coup, ils redressent un petit peu la tête et ils sont appuyés par un collectif de défense des travailleurs étrangers dans l'agriculture provençale, des saisonniers. Et c'est Guy Marigot, il s'appelle Guy Marigot, oui, c'est un exploitant lui-même de la Confédération Paysanne qui nous donne des précisions sur ce qu'on pourrait appeler l'homme omis.
Un contrat omis, c'est une personne qui vient travailler en France. La France a des accords bilatéraux avec la Pologne, le Maroc et la Tunisie. Bon, le statut de l'ouvrier omis, ça veut dire office des migrations internationales. Le statut omis, c'est un statut qui dit que la personne peut venir travailler en France pendant une période de 6 mois, avec une prorogation de 2 mois possible, mais en aucun cas, ça peut dépasser 8 mois. Surtout, en aucun cas, elle peut rester un an en France d'affilée. Elle est obligée de rester 4 mois dans son pays d'origine. Un des gros inconvénients de ce statut, c'est qu'il est lié à un employeur et une personne. C'est-à-dire que l'employeur demande à cette personne de venir travailler chez lui, il lui fait un contrat. À la fin du contrat, s'il ne veut plus renouveler, il n'a pas de rupture. Il suffit que l'employeur ne renouvelle pas ce contrat, sans motif. De cette manière, il y a des salariés qui viennent en France sous statut OMI depuis 20 ans, 25 ans, et n'ayant jamais eu une année entière en France, ne peuvent pas revendiquer, ne peuvent pas demander un titre de séjour. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont jamais été en France.
Ça concerne combien de personnes, ces fameux contrats OMI, ici?
À peu près 10 000 sur le territoire national, dont 4 500 ou 4 800 sur les Bouches-du-Rhône. Il y a un réel problème, quoi. Les gens ici, les qu'ils soient étrangers avec un titre de séjour ou français, ne veulent pas faire ces travaux. Ce sont des travaux pénibles, il faut dire ce qui est, hein, mais qui sont payés d'une manière dégueulasse. Quand vous voyez des salariés qui vous disent, des salariés omis ou clandestins, parce qu'il y a beaucoup de clandestins également, qui vous disent nous sommes payés à 5 euros et d'autres disent nous sommes payés à 3 euros de l'heure. Qui aujourd'hui accepte de travailler dans ces conditions? Maintenant, ce qui est clair, c'est que l'agriculture provençale et toute l'agriculture de maraîchage ou de production de fruits et légumes a un besoin de salariés saisonniers, d'ouvriers saisonniers. Il ne nous vient pas à l'idée de dire les exploitations doivent embaucher des ouvriers permanents. C'est faux. On sait que pour la récolte, il y a des à-coups de production et il faut des saisonniers. Tout à fait d'accord. Là où nous allons contre ce statut, c'est que le statut de l'OMI permet à l'employeur qui ne veut pas renouveler, d'avoir un droit de chantage même abominable sur les personnes qui sont embauchées. Il suffit, le salarié est un peu âgé, un peu usé, fatigué, il a pris conscience que depuis 20 ans qu'il est en France, il a des droits, il doit être payé d'une manière correcte. Vous dites, cher ami, c'est bien, l'année prochaine, vous ne revenez plus. Et le gars ne peut plus rien faire, parce que dès que son contrat est fini, dans les 8 jours, il faut qu'il rentre chez lui au Maroc. Même s'il est malade, il doit rentrer chez lui.
Dix mille en France, selon Guy Marigot, 4 800 dans les Bouches-du-Rhône, avec ces contrats omis, plus les clandestins. Et combien de clandestins? Alors là, évidemment, on n'en sait rien, avec des revenus de l'ordre de 5 euros au mieux, et de 3 euros l'heure. C'est quand même pas, ça permet pas de s'engraisser beaucoup. Et puis, ces contrats omis qui finalement laissent d'un tout l'arbitraire à l'employeur qui décide de qu'il reprendra l'année suivante. Là-dessus, il a tout loisir de reconduire ou non le contrat pour l'année suivante. Et puis, ces employeurs qui se font payer pour embaucher l'année suivante, et alors avec des sommes qui peuvent être tout à fait rondelettes. Voilà ce qui est derrière ou avant les jolies petites mandarines qui sont sur cette table dans cette jolie maison. Alors bon, les employeurs sont-ils tous des salauds? Évidemment que non, il y a des braves gens, et puis il y a des gars qui font ce qu'ils peuvent. Rencontre avec Monsieur Épinard.
C'est des gars qui bossent pour vous, là?
Ouais, j'en ai au contrat saisonnier, contrat pendant 5 mois. Ouais. La saison, nous, on fait septembre, mars. Ouais.
Qu'est-ce que vous faites, là, comme culture?
On fait que de la culture d'épinard, que de la feuille d'épinard, que ça.
Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, les gars, là? Ils sont en train de débroussailler un peu les serres, là.
Là, ils débroussaillent un peu les serres sur le bord du plastique, parce qu'avec les herbins, on n'arrive pas à tuer cette herbe. Il y a certaines herbes qu'on n'arrive pas à tuer.
Alors, et vous en avez combien de migrants, comme ça, là, de saisonniers?
Saisonniers, on en a 4 ans, et un au migrant, on en a 5 ans. Donc on a quand même une quinzaine d'hectares.
Ah oui, c'est pas mal, ça.
C'est un tunnel, ça fait droit de superficie. Ouais. Mais au niveau des centrales, pendant 7 mois, tous les jours, ils nous appellent, et tous les jours, ils ont leur quantité qu'il faut. Ça, c'est tout le ménage qui reste pendant 5 mois avec nous.
Ouais. Voilà. Ça, c'est flexible, c'est pratique, ça.
C'est pratique parce qu'ils sont, là en temps voulu, puis après, quand ils ont fini, quand même, ils s'en vont volontiers. Hein.
Pourquoi?
Parce qu'ils en ont marre. Hein.
Alors, c'est dur comme boulot.
Ah, c'est dur.
Et ces gars-là, vous les embauchez régulièrement depuis longtemps?
Mais là, on a une équipe, ça fait à peu près... Il y en a qui ont 2 ans, 3 ans et 4 ans. Ils reviennent, s'ils ne reviennent pas, on échange, on prend des plus jeunes. On essaye de prendre des équipes de jeunes. C'est plus productif et ils sont moins agaçants. Les autres, ils commencent à être plus...
Ah ouais, quand ils ont un peu de...
Oui, ils ont un peu de graines. Tandis que les jeunes, ils sont plus compétents pour nous.
Et quand vous dites agaçant, c'est quoi?
Ben agaçant, c'est vous leur dire qu'aujourd'hui, mettons qu'il y a une journée dure à faire, et ben ils vont prendre le même rythme, non? Ils vont pas donner un coup de collier, rien. Voilà.
Ouais.
Et pour nous, ça, dans l'agriculture, ça compte beaucoup, non? Surtout qu'on a les camions qui chargent le soir, les camions qui chargent le soir, entre 7h et 8h, il faut que le matin, ils sortent sur Régis à 4h du matin. Alors quand il faut donner un coup de collier, ben il faut y aller, hein. Voilà. Mais il y en a qui commandent jamais.
Ah bon? Pourquoi?
Parce que ça me fout.
Et vous arrivez à parler avec eux, parce que beaucoup ils parlent pas français.
Bon, maintenant il y en a de moins en moins, tiens. On a un ou deux qui parlent très peu, mais eh ben c'est là ils bossent plus que les autres. Ceux qui parlent fort français, ils bossent plus que les autres parce que ils veulent s'intégrer dans le milieu.
Ah ouais.
Et ça fait très peu longtemps qu'il est là. Et... Ouais. Il veut faire voir qu'on a le meilleur. Hein, voilà.
Ouais. Alors vous prenez, ça arrive de prendre des pas déclarés aussi ou quand il y a des coups de bourre.
Quand il nous arrive un coup de bourre, comment on fait? Aujourd'hui, on a trois personnes à déclarer, mais il nous en faut deux de plus. Comment on fait? Tu vas taper aux portes n'importe où? Ils sont là, ils nous ont pas. Oui, non, oui, non. Le premier qui passe, on paye, la journée, puis c'est fini. Il faut dire la vérité. Ouais.
Ça se bouscule en plus ici dans la région. Hein,
hein?
Ça se bouscule dans la région, il y en a plein.
Ça se bouscule. C'est-à-dire là, il y a le paquet. Hein. Depuis ce matin, je crois qu'il y en est passé 14.
Non, depuis ce matin.
Ouais. À moi.
Ouais, selon chez vous.
Hein? C'est dingue. Hein. Sur 14, il doit en avoir, allez, disons, une carte qui en est papier. Et 10 qui sont comme ça à l'aventure. Alors, je comprends pas pourquoi ils font pas quelque chose. Aujourd'hui, ça est sur le journal.
C'est un rêve pour nous, ça, venir ici.
من متى وكيف
سادوك الان الى هذه الطريقه من التسجيل السريعه كنت تغنين
Voilà Hassan qui écoute la radio de son pays. On est à Berre, l'étang de Berre, dans le sud de la France, dans ce que tous les gens du coin appellent le Gourbi, un bidonville à peine dissimulé depuis des décennies, où se succèdent au gré des saisons les saisonniers étrangers, immigrés, qui viennent travailler avec ces contrats, donc ces contrats omis qui sont, on l'a compris, formels, mais qui permettent l'exploitation nécessaire au type de production de ces légumes, fruits et légumes dans cette région. Alors évidemment que quand on sait que au Maroc par exemple le même travail est payé 4 euros par jour, on comprend pourquoi pour quelqu'un comme Hassan c'est un rêve de venir en France. C'est pas seulement le goût de l'exotisme, c'est aussi que voilà, il va gagner 4 à 10 fois plus en France que dans son pays, et en travaillant comme un malade, comme un esclave, dans des conditions absolument dégueulasses, mais quelques mois, mais il va pouvoir rentrer au pays, survivre avec sa petite famille. Et c'est une main d'œuvre très appréciée par nos gentils négriers, parce que généralement ce sont des gars qui dans leur pays sont eux-mêmes des agriculteurs, des paysans, donc ils connaissent le travail de la terre, et ils sont d'autant plus appréciés. La question, c'est évidemment, faut pas qu'ils deviennent trop exigeants, il faudrait pas qu'ils redressent trop la tête et qu'ils commencent à réclamer des salaires à peu près décents, des assurances maladie et toutes ces horreurs dont la France heureusement est en train de se débarrasser, et que nous détruisons avec méthode depuis un certain nombre d'années. Quelques instants avec Hassan dans son gourbi.
Voilà de la soupe, elle est utilisée surtout le mois de Ramadan, parce que c'est un peu léger, oui. On est à jeun toute la journée, on commence par la soupe, de l'orge, c'est pas du blé, c'est de l'orge, elle n'est pas lourde pour l'estomac.
Alors ça c'est ton chez toi là, ta oui. Caravane.
Oui, c'est mon caravane ça.
C'est tout petit.
Oui, je suis seul bien sûr, c'est mieux.
Toi tu es jeune, t'as quel âge?
J'ai presque 26. pas encore, mais le mois de janvier, j'ai fait 26 ans.
26 ans.
Ouais.
Et tu vis là depuis combien de temps, toi?
Ici, en France.
Oui, dans cette caravane, là.
Le mois de 1er février de cette année.
Et en France?
Plus au mois de janvier. J'étais dans un autre pays européen.
Mmh.
Oui. Et j'ai rentré ici. Hein.
C'est toi qui l'as fait, la soupe, là?
Ah oui, bien sûr, c'est moi qui fais tout. Hein. Je n'ai jamais fait le repas dans ma vie.
C'est
ma
bon?
Mère. Je n'ai jamais fait le repas, moi. C'est ici que j'apprends à faire tout ça.
Ah.
C'est ma mère qui fait tout.
Eh oui, et la maman, elle est loin, là?
Ah oui, bien sûr.
Elle est où, la maman?
Au pays.
C'est où, pays?
Pays maghrébienne.
Ouais. On va rester
ouais.
Flou volontairement.
Oui.
Toi, tu as des papiers, toi?
Non.
Non?
Oui. Ah si, j'ai le papier, je ne reste pas ici. Ici,
ouais.
Tu vas manger un peu de soupe, hein?
Ouais, ouais, avec plaisir.
Merci. Chaque matin, le boulanger nous apporte le pain.
Ah bon?
Oui. Un boulanger arabe.
Et toi, tu travailles dans les champs, là, dans les serres?
Oui. Tomates.
Tomates?
Pour le moment, c'est des tomates.
Alors, toi, tu voulais venir en France?
Oui. J'ai envie de venir en France comme tous les jeunes de mon pays. C'est un rêve pour nous, ça, venir ici. Dans notre région, il y a beaucoup de gens qui vivent ici, en France. Migration, beaucoup. En été, ils rentrent chez nous. Tous les jeunes de 17 ans, de 18 ans, de 16 ans, ils ont des voitures, des cabriolets, etc. Alors que nous, là-bas, on n'a rien. On voit ça. Oh, putain. Je vais aller en France.
Tu voulais le cabriolet aussi?
Ah, bien sûr, les cabriolets, la femme, la maison et tout. Et on arrive quand même. C'est un peu difficile, mais...
Comment t'as fait?
Un visa normal pour un pays européen. J'ai resté dans le pays que j'ai donné 3 mois. J'ai entré ici.
C'était quel pays?
C'est le Pays-Bas.
Et là, tu te retrouves dans le gourbi, là, dans le bidonville.
Oui, malheureusement. On est habitué par ça.
Tu t'habitues?
Oui.
La misère?
Oui. Il y a des problèmes d'électricité, de douche et de l'eau.
C'est-à-dire qu'il n'y a ni douche, ni électricité, ni eau.
Ah, c'est ça le problème. Rien. L'eau, tu regardes, on achète des bouteilles d'eau.
C'est tout.
Lorsque j'ai quitté mon pays, ça fait exactement, on est le 13, 11 mois et 4 jours.
Ah, tu comptes les jours?
Ouais, bien sûr, tu comptes les jours. Je me rappelle bien des dates.
Et tes parents, ils connaissaient la France?
Mon père travaillait ici par contrat OMI.
Ah, ton père travaillait ici,
oui.
Avec les contrats OMI?
Oui. Il y a beaucoup de gens arabes ici, de mon pays,
oui.
De mes cousins, beaucoup de gens ici que je le connais, moi.
Et ton père, alors, pendant très longtemps, il est venu ici avec des contrats OMI?
Depuis 68, depuis que je suis né.
Et donc, t'as toujours vu ton père faire l'aller-retour,
oui,
ici,
oui.
La Berre,
ton pays? J'ai trouvé mon père 4 mois avec moi, 8 mois ici.
Ah, vous êtes croisés, alors?
Oui. Je n'arrive même pas à parler, discuter avec lui. Hein. C'est un homme bizarre pour moi. Le reste de l'année, il est ici. Mon père, c'est un homme bizarre pour moi.
Et Hassan, qu'est-ce que tu fais alors pour gagner de l'argent là? Tu travailles en ce moment?
Oui, je travaille. La tomate.
Ouais, donc clandestin quoi?
Oui.
Tu trouves des patrons qui t'embauchent?
Oui.
Sans problème?
Lorsqu'elles sont pressées, il y a beaucoup de travail. Et viens travailler, viens. Lorsqu'il n'y a pas beaucoup de travail, allez, dégage-toi, on n'a rien. C'est ça.
Et Hassan, il y a beaucoup comme toi? Qui travaille là, dans le coin, ouais. Sans papier?
Oui, il y a beaucoup.
Ton patron, donc il sait que t'as pas de papier?
Oui.
Ici, il y a des centres de flics régulièrement ici. Il y a eu des policiers qui sont venus souvent ici.
Oui. Maintenant, on ne dort pas presque la nuit.
Vous avez peur? Vous dormez pas de la nuit?
Ah, bien sûr. Regarde, chaque nuit, je viens qui regarde des fenêtres là.
Ah, oui, t'as avant de juste
sortir.
À côté.
Oui. Oui, avant de sortir, on trouve un coup d'œil.
Thank you.
passe près de chez nous, tout ça. Hein, ça se passe à Berre, étang de Berre, Marseille. Ils sont environ 200 dans ce gourbi, dans le coin autour de Berre. 4500, 4800, les Bouches-du-Rhône, 10 000 en tout en France, avec ces contrats omis, je l'ai dit tout à l'heure, sans parler évidemment des clandestins. Alors, évidemment, ça fait une main d'œuvre docile, silencieuse, vous avez vu, dès qu'il y en a un qui bouge l'oreille, hop, il se retrouve dehors, corvéable à merci. Et puis, il faut bien insister encore une fois, il n'y a aucun, ce contrat omis n'ouvre aucun droit aux ascédiques, ni à la couverture sociale, dès la fin du contrat, alors que les salariés omis cotisent au même titre que les autres travailleurs. Ça s'appelle une exploitation. Alors évidemment, on va trouver le cas de l'exploitant agricole qui est un type qui se débrouille, qui est un brave type, qui est un type honnête, qui peut montrer des fiches de paye impeccables de ces gens qui l'emploient. Il y en a, ça se trouve. Mais enfin, disons que c'est plutôt assez rare. Voilà ce qu'en dit Guy Marigot du collectif de défense des travailleurs saisonniers, lui-même étant l'exploitant, il va nous dire après tout à l'heure comment il a été lui aussi conduit à se conduire de cette façon. Et il est fait partie de la Confédération paysanne, Guy Marigot.
Les contrats précaires que sont les contrats omis permettent de mettre la pression sur les contrats à durée indéterminée. Par contre, le clandestin, on nous fait un fromage là avec le clandestin, mais le clandestin est absolument nécessaire. Si vous n'avez pas le clandestin, comment est-ce que vous allez faire pression sur celui qui est déjà précaire? C'est tout. Et après, pour faire pression sur le clandestin, vous avez quoi? Vous avez l'esclave. L'esclave qui travaille gratuitement. Hein. C'est ça, le principe de... Alors, on peut l'appeler libéralisme, on peut l'appeler capitalisme, on peut l'appeler comme on veut. Le principe, c'est qu'il faut toujours, à un moment donné, trouver quelqu'un qui acceptera, parce que sa condition est beaucoup plus fragile et précaire, qui acceptera de bosser pour moins cher et dans des conditions encore pires que celui qui est au-dessus de lui. Mais après... Au-dessous, ça veut dire quoi? Le soutier, c'est quoi? Le soutier, le dernier, c'est l'esclave. Alors, vous avez l'esclave, au-dessus, vous avez le clandestin. Quand on nous dit on combat le travail clandestin, c'est complètement même faux. Le travail clandestin est nécessaire pour une économie française et européenne qui a besoin d'avoir des coûts de production qui sont très bas. Donc le clandestin est nécessaire pour faire pression sur le salariat en règle, qui sous la forme de l'OMI, qui lui-même fait pression sur le salariat tout à fait syndiqué, hein, et ainsi de suite.
La pression sur l'homme, dans ce système-là, c'est la même chose que la pression sur les légumes. Quand on suit l'histoire maintenant des fruits et légumes les 30 années passées, ici, dans la région, mais en Europe, c'est un peu généralisé.
Peter Gerber.
Les grandes exploitations, il y a de plus en plus, il y a une concentration d'une production agricole, et on est obligé de produire de plus en plus, avoir un rendement de mètre hectare de plus en plus important. Et c'est vrai qu'il y a 30 ans, la pression sur les paysans était moins grande. Et aujourd'hui, sans vouloir l'excuser, mais ce qui est quand même vrai, quelqu'un qui veut survivre dans la logique de ce système-là, qui essaie pas de faire autre chose, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut économiser de l'argent, pas sur l'engrais, pas sur l'eau, sur rien du tout, sauf la main d'œuvre. Et ben, il le fait. Il y a presque une pression des structures modernes, productivistes et tout ça, qui oblige le paysan de, ben, s'il croit à ça, il fait avec. Et, il joue le jeu. Et un jeu que tôt ou tard ça va bloquer quelque part, parce que c'est vrai, ça traite l'homme comme on traite les légumes. On fait des trucs de plus en plus dégueulasses, qui ont de plus en plus d'eau, qui ont de moins en moins de goût. On le paye de moins en moins bien. C'est un système qui va trouver ses limites.
Et comment ça se passe le travail? Combien il te paye?
Il y a des gens qui ne sont pas déclarés, qui travaillent à 5 euros.
5 euros de l'heure?
Oui.
Et toi?
Moi déclaré, j'ai les fiches de paye et tout.
T'as des fiches de paye?
Oui, j'ai les fiches de paye.
Ah, parce que t'as une fausse carte?
Oui.
Et toi, t'es persuadé qu'ils savent que c'est une fausse carte?
Oui. Moi, j'ai un contrat. Je vais vous montrer quelque chose, une minute.
Moi, j'ai un contrat 20 heures par semaine.
20 heures par semaine? 20 heures
seulement par semaine et 85 par mois. Alors, regardez avec moi. Oui. Lundi 8, mardi 8, mercredi 8, jeudi 8, vendredi 8, et samedi normalement 8, mais moi, j'étais malade, je ne parle.
Oui.
48. Oui. Et c'est déclaré 20 heures seulement.
Ah oui, c'est ça. Et t'en fais au moins le double. Et t'es pas le seul dans le cas.
Oui. Tous. Tous les gens qui n'ont pas les papiers.
Ici, par exemple, je sais pas, un mois de travail, ça te rapporte combien de fois plus que chez toi?
Ici, on gagne, par exemple, si en disant 5 euros par heure. 5 euros. 5 euros net par heure. À notre pays, on n'arrive pas à gagner de 5 euros par toute la journée. Pendant 8 heures.
Ça me dit. Tu gagnes au moins 8 fois plus ici, au moins.
Le principe, c'est qu'on travaille. Parce que je vais rentrer chez moi. Hein. Je ne vais pas rester ici toute ma vie. Ou...
Ah, tu veux rentrer chez toi?
Bien sûr. Qu'est-ce que je vais rester faire ici? Coucher les policiers comme des criminels ou... Non, non.
Voilà le système. On a vu fonctionner en Italie récemment encore, hein, à Milan dans les reportages qu'on a fait. On l'a vu à Sangatte. Pourquoi est-ce qu'on se précipite vers la Grande-Bretagne? Eh bien, c'est que là, on sera un sans-papier qui fragilisera le clandestin, qui fragilisera le précaire, qui fragilise l'intérimaire, qui fragilise l'employé, qui fragilise, etc. C'est un système de fragilisation de façon à ce que tout le monde accepte, les uns et les autres acceptent d'être une main-d'œuvre docile, corvéable, silencieuse, étant donné le système de production et de profit dans lequel nous sommes installés. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est pas plus facile que ça. Guy Marigot, Confédération Paysanne.
On avait une exploitation, on peut dire, de type industriel, même si elle était petite. Hein,
vous savez. Et vous avez renoncé à ça?
On a décidé de quitter ce système pour deux raisons. La première, c'est que nous avons compris que c'était un système suicidaire. Hein, parce que à force de produire, d'être obligé de produire de plus en plus, avec de moins en moins de frais, et surtout de moins en moins la possibilité de perdre un pourcentage de la récolte, parce que vous avez une marge qui est tellement faible que vous ne pouvez plus vous permettre de perdre, mettons, une salade sur 20. On a compris que ce système était suicidaire, et puis il était suicidaire parce que de plus en plus il nous poussait dans nos derniers retranchements, c'est-à-dire que vous ne pouviez plus vous permettre de sauter un traitement, vous deviez plutôt faire un traitement supplémentaire, parce qu'on ne pouvait pas vous permettre dans ces conditions de perdre une salade sur 20.
Un traitement, c'est quoi?
Un traitement phytosanitaire. Donc, vous traitez à outrance parce que vous n'avez pas les moyens de dire, j'accepte un petit peu de casse.
C'est la course aux chimiques pour être sûr que...
C'est la course au zéro défaut parce que si vous plantez 15 salades au mètre carré, vous devez en ramasser 15. Si vous en ramassez 12, vous êtes mort. Parce que les deux qui restent, c'est votre bénéfice, quoi. Et on se rend compte petit à petit qu'on ne peut plus payer correctement ses salariés. Voilà. À un moment donné, quand on a des convictions et qu'on ne met pas des actes au bout de ces convictions, moi je considère qu'on est un voyou. Alors moi j'aime bien, quand je me rase, j'aime bien me regarder dans les yeux, dans la glace, quoi. Et puis
voilà. Et vous en sortez bien?
Oui, bien sûr. Non, mais ça c'est évident. Je tiens ma comptabilité.
Ça veut dire quoi? Vous faites des produits bio?
On a réduit notre production de, on va dire, 80% à peu près. Hein. Nous valorisons directement tout ce que nous produisons. Nous vendons directement tout ce que nous produisons. Pourquoi produire 100 tonnes vendues 10 alors qu'on peut produire 10 tonnes vendues 100? On arrive à 1000 aussi. C'est ça. Pour quelle raison laisser à la grande distribution le loisir d'engranger les bénéfices de la qualité? Nous, c'est un choix que nous avons fait. Hein.
Oui, mais peut-être que vous ne produisez pas aussi les mêmes choses.
Non, on pourrait produire les mêmes choses. Mais c'est un choix, attention. Je ne dis pas que cela...
C'est-à-dire qu'à l'arrivée, ça ne nous coûte pas le même prix aussi, nous, consommateurs.
Vos produits. Oui, ça vous coûte légèrement moins cher, oui.
Ah bon?
Mais évidemment. Ouais, vous imaginez que les grandes surfaces travaillent pour rien? Vous plaisantez. Hein. Quand vous achetez de la tomate qui est produite à 3000 bornes de chez vous, vous imaginez qu'elle arrive comment? Par la volonté du Saint-Esprit, elle arrive en camion.
Et moi, je fais comment à Paris, moi, pour acheter vos tomates?
C'est peut-être un peu caricatural ce que je vais vous dire, mais pour quelle raison voulez-vous manger de la tomate au mois de février, d'abord?
Hein. Parce qu'à Paris, il y a de la tomate qui pousse aussi au mois de juin, par exemple, ou au mois de mai. Hein, après tout, puis au mois de, à Paris, au mois d'avril, vous pouvez manger des petits pois, vous pouvez manger des oignons. C'est ça la richesse et la diversité. Je veux dire, aujourd'hui, l'uniformité, c'est le couillon qui mange de la tomate en janvier, en juin, en juillet, en novembre, en décembre. Moi, au mois d'avril, je mange des petits pois, je mange des oignons. Au mois de novembre, je bouffe des cardes, je mange des céleri. En juillet, je mange de bonnes tomates. En août, je mange des melons. Et moi, je mange des choses différentes toute l'année. Pour quelle raison voulez-vous que je fasse des conserves ou que j'achète des bidules qui, de la tomate par exemple, qui fait 2000 km pour venir jusque chez moi, 2000 km en roulant dans un camion polluant, conduit par un esclave, sur une route, une autoroute en bitume, qui extrait du pétrole. Ça veut dire quoi, ça? Alors, le summum de la connerie, c'est la tomate bio qui fait 3000 km pour venir à Paris. Ça va là, alors, il faut l'encadrer pour l'emplâtrer, quoi.
Il y avait un commerçant, je vous dis qu'il était chaland. Quand il avait à chanter, il se faisait pas prier. À 5h du matin, il chantait ce gai refrain. Ces carottes, puis ces navots, venez voir comme ils sont beaux.
Oh, on a des légumes, des carottes, puis des navots et des bêtes, puis des poireaux. Oh oui, on en a des beaux choux, des patates, puis des tomates, on en a des roues, des ventes. Quand le printemps est arrivé, il a commencé à chanter. Viens d'en voir mes échalotes, c'est mon caddie sous la botte. Des radis, puis la salade, des bêtes rapides, la rhubarbe. J'ai du frais sirop d'érable, c'est avec la cassonade. Oh, on en a des légumes, des carottes, puis des navots et des bêtes rapides, des poireaux. Oh oui, on en a des beaux choux.
On les retrouvera demain, les grosses légumes. Merci à tous, merci à Hassan, à Mohamed et aux autres. Merci au collectif Codetra, Espace Accueil Étranger à Marseille, le MRAP, aux amis de Longomaille, à Guy Marigot et à Peter Gerber. Reportage Thierry Char, technique aujourd'hui, Philippe Duclos et Sandrine Laurent, assistant Edouard Rex. Le répondeur, c'est Christophe Imbert, qui vous écoute au bout du 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Choix musicaux, Koy Nguyen. Et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Tiens, pendant que j'y suis, je vous donne le mail de là-bas si j'y suis. C'est daniel.mermet@radiofrance.com. Comme réclame.